Un chagrin causé par une personne qu'on aime peut être amer, même quand il est inséré au milieu de préoccupations, d'occupations, de joies qui n'ont pas cet être pour objet et desquelles notre attention ne se détourne que de temps en temps pour revenir à lui. Mais quand un tel chagrin naît, comme c'était le cas pour celui-ci, à un moment où le bonheur de voir cette personne nous remplit tout entier, la brusque dépression qui se produit alors dans notre âme jusque-là ensoleillée, soutenue et calme, détermine en nous une tempête furieuse contre laquelle nous ne savons pas si nous serons capables de lutter jusqu'au bout. Celle qui soufflait sur mon cœur était si violente que je revins vers la maison, bousculée, meurtrie, sentant que je ne pourrais retrouver la respiration qu'en rebroussant chemin, qu'en retournant sous un prétexte quelconque auprès de Gilberte. Mais elle se serait dit « Encore lui ! Décidément, je peux tout me permettre, il reviendra chaque fois, d'autant plus docile qu'il m'aura quitté plus malheureux. » Puis j'étais irrésistiblement ramenée vers elle par ma pensée, et ses orientations alternatives, cet affolement de la boussole intérieure, persistèrent quand je fus rentrée, et se traduisirent par les brouillons des lettres contradictoires que j'écrivis à Gilberte. J'allais passer par une de ces conjonctures difficiles en face desquelles il arrive généralement qu'on se trouve à plusieurs reprises dans la vie, et auxquelles, bien qu'on n'ait pas changé de caractère, de nature, notre nature qui crée elle-même nos amours et presque les femmes que nous aimons, et jusqu'à leur faute, on ne fait pas face de la même manière à chaque fois, c'est-à-dire à tout âge. À ces moments-là, notre vie est divisée et comme distribuée dans une balance en deux plateaux opposés où elle tient tout entière. Dans l'un, il y a notre désir de ne pas déplaire, de ne pas paraître trop humble à l'être que nous aimons sans parvenir à le comprendre, mais que nous trouvons plus habile de laisser un peu de côté pour qu'il n'ait pas ce sentiment de se croire indispensable qui le détournerait de nous. De l'autre côté, il y a une souffrance, non pas une souffrance localisée et partielle, qui ne pourrait au contraire être apaisée que si, renonçant à plaire à cette femme et à lui faire croire que nous pouvons nous passer d'elle, nous allions la retrouver. Qu'on retire du plateau où est la fierté une petite quantité de volonté qu'on a eu la faiblesse de laisser s'user avec l'âge, qu'on ajoute dans le plateau où est le chagrin une souffrance physique acquise et à qui on a permis de s'aggraver, et au lieu de la solution courageuse qu'il aurait emportée à 20 ans, c'est l'autre devenu trop lourde et sans assez de contrepoids qui nous abaisse à 50. D'autant plus que les situations, tout en se répétant, changent, et qu'il y a chance pour qu'au milieu ou à la fin de la vie, on ait eu pour soi-même la funeste complaisance de compliquer l'amour d'une part d'habitude, que l'adolescence, retenue par trop d'autres devoirs, moins libre de soi-même, ne connaît pas. Je venais d'écrire à Gilberte une lettre où je laissais tonner ma fureur, non sans pourtant jeter la bouée de quelques mots placés comme au hasard, et où mon ami pourrait accrocher une réconciliation. Un instant après, le vent ayant tourné, c'était des phrases tendres que je lui adressais pour la douceur de certaines expressions désolées, de tels jamais plus si attendrissants pour ceux qui les emploient, si fastidieux pour celle qui les lira, soit qu'elle les croie mensongers et traduise jamais plus par « ce soir même, si vous voulez bien de moi », ou qu'elle les croie vraies en lui annonçant alors une de ces séparations définitives qui nous sont si parfaitement égales dans la vie quand il s'agit d'êtres dont nous ne sommes pas épris. Mais puisque nous sommes incapables, tandis que nous aimons, d'agir en digne prédécesseur de l'être prochain que nous serons et qui n'aimera plus, comment pourrions-nous tout à fait imaginer l'état d'esprit d'une femme à qui, même si nous savions que nous lui sommes indifférents, nous avons perpétuellement fait tenir dans nos rêveries, pour nous bercer d'un beau songe ou nous consoler d'un gros chagrin, les mêmes propos que si elle nous aimait? Devant les pensées, les actions d'une femme que nous aimons, nous sommes aussi désorientés que le pouvaient être devant les phénomènes de la nature les premiers physiciens, avant que la science fût constituée et eût mis un peu de lumière dans l'inconnu, ou pis encore, comme un être pour l'esprit de qui le principe de causalité existerait à peine, un être qui ne serait pas capable d'établir un lien entre un phénomène et un autre, et devant qui le spectacle du monde serait incertain comme un rêve. Certes, je m'efforçais de sortir de cette incohérence, de trouver des causes. Je tâchais même d'être objectif, et pour cela de bien tenir compte de la disproportion qui existait entre l'importance qu'avait pour moi Gilberte et celle non seulement que j'avais pour elle, mais qu'elle-même avait pour les autres êtres que moi, disproportion qui, si je l'eusse omise, eût risqué de me faire prendre une simple amabilité de mon ami pour un aveu passionné, une démarche grotesque et avilissante de ma part pour le simple et gracieux mouvement qui vous dirige vers de beaux yeux. Mais je craignais aussi de tomber dans l'excès contraire, où j'aurais vu dans l'arrivée inexacte de Gilberte à un rendez-vous, dans un mouvement de mauvaise humeur, une hostilité irrémédiable. Je tâchais de trouver entre ces deux optiques également déformantes celle qui me donnerait la vision juste des choses. Les calculs qu'il me fallait faire pour cela me distrayaient un peu de ma souffrance, et soit par obéissance à la réponse des nombres, soit que je leur eusse fait dire ce que je désirais, je me décidais le lendemain à aller chez les Swann, heureux, mais de la même façon que ceux qui, s'étant tourmentés longtemps à cause d'un voyage qu'ils ne voulaient pas faire, ne vont pas plus loin que la gare et rentrent chez eux défaire leur mal. Et comme, pendant qu'on hésite, la seule idée d'une résolution possible, à moins d'avoir rendu cette idée inerte en décidant qu'on ne prendra pas la résolution, développe comme une graine vivace les linéaments, tout le détail des émotions qui naîtraient de l'acte exécuté, je me dis que j'avais été bien absurde de me faire, en projetant de ne plus voir Gilberte, autant de mal que si j'eusse dû réaliser ce projet et que, puisqu'au contraire c'était pour finir par retourner chez elle, j'aurais pu faire l'économie de tant de velléités et d'acceptations douloureuses. Mais cette reprise des relations d'amitié ne dura que le temps d'aller jusque chez les Swann, non pas parce que leur maître d'hôtel, lequel m'aimait beaucoup, me dit que Gilberte était sortie. Je suis en effet dès le soir même que c'était vrai, par des gens qu'il avait rencontrés, mais à cause de la façon dont il me le dit. « Monsieur, mademoiselle est sortie. Je peux affirmer à monsieur que je ne mens pas. Si monsieur veut se renseigner, je peux faire venir la femme de chambre. Monsieur pense bien que je ferai tout ce que je pourrais pour lui faire plaisir et que, si mademoiselle était là, je mènerai tout de suite monsieur auprès d'elle. » Ces paroles, de la sorte qui est la seule importante, involontaire, nous donnant la radiographie au moins sommaire de la réalité insoupçonnable que cacherait un discours étudié, prouvaient que dans l'entourage de Gilberte, on avait l'impression que je lui étais importun. Aussi, à peine le maître d'hôtel les eut-il prononcées, qu'elles engendrèrent chez moi de la haine à laquelle je préférais donner comme objet, au lieu de Gilberte, le maître d'hôtel. Il concentra sur lui tous les sentiments de colère que j'avais pu avoir pour mon ami. Débarrassé d'eux grâce à ses paroles, mon amour subsista seul. Mais elle m'avait montré en même temps que je devais pendant quelque temps ne pas chercher à voir Gilberte. Elle allait certainement m'écrire pour s'excuser. Malgré cela, je ne retournerais pas tout de suite la voir afin de lui prouver que je pouvais vivre sans elle. D'ailleurs, une fois que j'aurais reçu sa lettre, fréquenter Gilberte serait une chose dont je pourrais plus aisément me priver pendant quelque temps, parce que je serais sûre de la retrouver dès que je le voudrais. Ce qu'il me fallait pour supporter moins tristement l'absence volontaire, c'était sentir mon cœur débarrassé de la terrible incertitude si nous n'étions pas brouillés pour toujours, si elle n'était pas fiancée, partie, enlevée. Les jours qui suivirent ressemblèrent à ceux de cette ancienne semaine du jour de l'an que j'avais dû passer sans Gilberte. Mais cette semaine-là finie, jadis, d'une part mon amie reviendrait aux Champs-Élysées, je la reverrais comme auparavant, j'en étais sûre. Et d'autre part, je savais avec non moins de certitude que tant que dureraient les vacances du jour de l'an, ce n'était pas la peine d'aller aux Champs-Élysées. De sorte que, durant cette triste semaine déjà lointaine, j'avais supporté ma tristesse avec calme, parce qu'elle n'était mêlée ni de crainte ni d'espérance. Maintenant, au contraire, C'était ce dernier sentiment qui, presque autant que la crainte, rendait ma souffrance intolérable. N'ayant pas eu de lettre de Gilberte le soir même, j'avais fait la part de sa négligence, de ses occupations. Je ne doutais pas d'en trouver une d'elle dans le courrier du matin. Il fut attendu par moi chaque jour avec des palpitations de cœur auxquelles succédait un état d'abattement quand je n'y avais trouvé que des lettres de personnes qui n'étaient pas Gilberte, ou bien rien, ce qui n'était pas pire, les preuves d'amitié d'une autre me rendant plus cruelle celle de son indifférence. Je me remettais à espérer pour le courrier de l'après-midi. Même entre les heures des levées des lettres, je n'osais pas sortir, car elle eût pu faire porter la sienne. Puis le moment finissait par arriver où, ni facteur, ni valet de pied des Swann ne pouvant plus venir, il fallait remettre au lendemain matin l'espoir d'être rassuré, et ainsi, parce que je croyais que ma souffrance ne durerait pas, j'étais obligé, pour ainsi dire, de la renouveler sans cesse. Le chagrin était peut-être le même, mais au lieu de ne faire, comme autrefois, que prolonger uniformément une émotion initiale, recommençait plusieurs fois par jour en débutant par une émotion si fréquemment renouvelée qu'elle finissait, elle, état tout physique si momentané, par se stabiliser, si bien que les troubles causés par l'attente ayant à peine le temps de se calmer avant qu'une nouvelle raison d'attendre survînt, il n'y avait plus une seule minute par jour où je ne fusse dans cette anxiété qu'il est pourtant si difficile de supporter pendant une heure. Ainsi, ma souffrance était infiniment plus cruelle qu'au temps de cet ancien 1er janvier, parce que cette fois il y avait en moi, au lieu de l'acceptation pure et simple de cette souffrance, l'espoir à chaque instant de l'avoir cessée. À cette acceptation, je finis pourtant par arriver. Alors je compris qu'elle devait être définitive et je renonçai pour toujours à Gilberte, dans l'intérêt même de mon amour, et parce que je souhaitais avant tout qu'elle ne conservât pas de moi un souvenir dédaigneux. Même à partir de ce moment-là, et pour qu'elle ne pût former la supposition d'une sorte de dépit amoureux de ma part, quand dans la suite elle me fixa des rendez-vous, je les acceptais souvent et, au dernier moment, je lui écrivais que je ne pouvais pas venir, mais en protestant que j'en étais désolée, comme j'aurais fait avec quelqu'un que je n'aurais pas désiré voir. Ces expressions de regret qu'on réserve d'ordinaire aux indifférents persuaderaient mieux Gilberte de mon indifférence, me semblait-il, que ne ferait le ton d'indifférence qu'on affecte seulement vers celle qu'on aime. Quand, mieux qu'avec des paroles, par des actions indéfiniment répétées, je lui aurais prouvé que je n'avais pas de goût à la voir, peut-être en retrouverait-elle pour moi. Hélas, ce serait vain. Chercher, en ne la voyant plus, à ranimer en elle ce goût de me voir, c'était la perdre pour toujours. D'abord parce que quand il commencerait à renaître, si je voulais qu'il durât, il ne faudrait pas y céder tout de suite. D'ailleurs, les heures les plus cruelles seraient passées. C'était en ce moment qu'elle m'était indispensable, et j'aurais voulu pouvoir l'avertir que bientôt elle ne calmerait, en me revoyant, qu'une douleur tellement diminuée qu'elle ne serait plus, comme elle l'eût été encore en ce moment même, et pour y mettre fin, un motif de capitulation, de se réconcilier et de se revoir. Et plus tard, quand je pourrais enfin avouer sans péril à Gilberte tant son goût pour moi aurait repris de force le mien pour elle, celui-ci n'aurait pu résister à une si longue absence et n'existerait plus. Gilberte me serait devenue indifférente. Je le savais, mais je ne pouvais pas le lui dire. Elle aurait cru que si je prétendais que je cesserais de l'aimer en restant trop longtemps sans la voir, c'était à seule fin qu'elle me dit de revenir plus vite auprès d'elle. En attendant, ce qui me rendait plus aisé de me condamner à cette séparation, c'est que, afin qu'elle se rendît bien compte que, malgré mes affirmations contraires, c'était ma volonté et non un empêchement, non mon état de santé qui me privait de la voir, toutes les fois où je savais d'avance que Gilberte ne serait pas chez ses parents, devait sortir avec une amie et ne rentrerait pas dîner, j'allais voir Madame Swann, laquelle était redevenue pour moi ce qu'elle était au temps où je voyais si difficilement sa fille et où, les jours où celle-ci ne venait pas aux Champs-Élysées, j'allais me promener rue des Acacias. De cette façon, j'entendrais parler de Gilberte et j'étais sûre qu'elle entendrait ensuite parler de moi et d'une façon qui lui montrerait que je ne tenais pas à elle. Et je trouvais, comme tous ceux qui souffrent, que ma triste situation aurait pu être pire. Car, ayant libre entrée dans la demeure où habitait Gilberte, je me disais toujours, bien que décidée à ne pas user de cette faculté, que si jamais ma douleur était trop vive, je pourrais la faire cesser. Je n'étais malheureux qu'au jour le jour. Et c'est trop dire encore. Combien de fois par heure? Mais maintenant, sans l'anxieuse attente qui m'avait étreint les premières semaines après notre brouille avant d'être retournée chez les Swann, ne me récitais-je pas la lettre que Gilberte m'enverrait bien un jour, m'apporterait peut-être elle-même? La constante vision de ce bonheur imaginaire m'aidait à supporter la destruction du bonheur réel. Pour les femmes qui ne nous aiment pas, comme pour les disparus, savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. On vit aux aguets, aux écoutes. Des mères dont le fils est parti en mer pour une exploration dangereuse se figurent à toute minute, et alors que la certitude qu'il a péri est acquise depuis longtemps, qu'il va entrer miraculeusement sauvé et bien portant. Et cette attente, selon la force du souvenir et la résistance des organes, ou bien leur permet de traverser les années au bout desquelles elles supporteront que leur fils ne soit plus, d'oublier peu à peu et de survivre, ou bien les fait mourir. D'autre part, mon chagrin était un peu consolé par l'idée qu'il profitait à mon amour. Chaque visite que je faisais à Madame Swann sans voir Gilberte m'était cruelle, mais je sentais qu'elle améliorait d'autant l'idée que Gilberte avait de moi. D'ailleurs, si je m'arrangeais toujours, avant d'aller chez Madame Swann, à être certain de l'absence de sa fille, cela tenait peut-être autant qu'à ma résolution d'être brouillée avec elle, à cet espoir de réconciliation qui se superposait à ma volonté de renoncement. Bien peu sont absolus, au moins d'une façon continue, dans cette âme humaine dont une des lois, fortifiée par les afflux inopinés de souvenirs différents, est l'intermittence. Et me masquait ce qu'elle avait de trop cruel. Cet espoir, je savais bien ce qu'il avait de chimérique. J'étais comme un pauvre qui mêle moins de larmes à son pain sec s'il se dit que tout à l'heure, peut-être, un étranger va lui laisser toute sa fortune. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. Or, mon espérance restait plus intacte, tout en même temps que la séparation s'effectuait mieux, si je ne rencontrais pas Gilberte. Si je m'étais trouvée face à face avec elle chez sa mère, nous aurions peut-être échangé des paroles irréparables qui eussent rendu définitive notre brouille, tué mon espérance et, d'autre part, en créant une anxiété nouvelle, réveiller mon amour et rendu plus difficile ma résignation. Depuis bien longtemps et fort avant ma brouille avec sa fille, Madame Swann m'avait dit « C'est très bien de venir voir Gilberte, mais j'aimerais aussi que vous veniez quelquefois pour moi. Pas à mon chou-fleurie où vous vous ennuieriez parce que j'ai trop de monde, mais les autres jours où vous me trouverez toujours un peu tard. » J'avais donc l'air, en allant la voir, de n'obéir que longtemps après à un désir anciennement exprimé par elle. Et très tard, déjà dans la nuit, presque au moment où mes parents se mettaient à table, je partais faire à Madame Swann une visite pendant laquelle je savais que je ne verrais pas Gilberte et où pourtant je ne penserais qu'à elle. Dans ce quartier, considéré alors comme éloigné d'un Paris plus sombre qu'aujourd'hui, et qui, même dans le centre, n'avait pas d'électricité sur la voie publique et bien peu dans les maisons, les lampes d'un salon situé au rez-de-chaussée ou à un entresol très bas, tel qu'était celui de ses appartements où recevait habituellement Madame Swann, suffisaient à illuminer la rue et à faire lever les yeux aux passants qui rattachaient à leur clarté, comme à sa cause apparente et voilée, la présence devant la porte de quelques coupés bien attelés. Le passant croyait, et non sans un certain émoi, à une modification survenue dans cette cause mystérieuse quand il voyait l'un de ses coupés se mettre en mouvement. mais c'était seulement un cocher qui, craignant que ces bêtes prissent froid, leur faisait faire de temps à autre des allées venues d'autant plus impressionnantes que les roues caoutchoutées donnaient au pas des chevaux un fond de silence sur lequel ils se détachaient plus distincts et plus explicites. Le jardin d'hiver, que dans ces années-là le passant apercevait d'ordinaire, quelle que fût la rue, si l'appartement n'était pas à un niveau trop élevé au-dessus du trottoir, ne se voit plus que dans les héliogravures des livres d'étrennes de Stahl, où, en contraste avec les rares ornements floraux des salons Louis XVI d'aujourd'hui, une rose ou un iris du Japon dans un vase de cristal à long col qui ne pourrait pas contenir une fleur de plus, il semble, à cause de la profusion des plantes d'appartement qu'on avait alors et du manque absolu de stylisation dans leur arrangement, avoir dû, chez les maîtresses de maison, répondre plutôt à quelque vivante et délicieuse passion pour la botanique qu'à un froid souci de morte décoration. Il faisait penser, en plus grand dans les hôtels d'alors, à ces serres minuscules et portatives posées au matin du 1er janvier sous la lampe allumée, les enfants n'ayant pas eu la patience d'attendre qu'il fît jour, parmi les autres cadeaux du jour de l'an, mais le plus beau d'entre eux, consolant avec les plantes qu'on va pouvoir cultiver de la nudité de l'hiver. Plus encore qu'à ces serres-là elles-mêmes, ces jardins d'hiver ressemblaient à celles qu'on voyait tout auprès d'elles, figurées dans un beau livre, autre cadeau du jour de l'an, et qui, bien qu'elle fût donnée non aux enfants, mais à Mademoiselle Lily, l'héroïne de l'ouvrage, les enchantait à tel point que, devenus maintenant presque vieillards, ils se demandent si dans ces années fortunées l'hiver n'était pas la plus belle des saisons. Enfin, au fond de ce jardin d'hiver, à travers les arborescences d'espèces variées qui, de la rue, faisaient ressembler la fenêtre éclairée au vitrage de ces serres d'enfants dessinées ou réelles, le passant, se hissant sur ses pointes, apercevait généralement un homme en redingote, un gardénia ou un œillet à la boutonnière, debout devant une femme assise, tous deux vagues comme deux intailles dans une topaze, au fond de l'atmosphère du salon ambré par le samovar, importation récente alors, de vapeurs qui s'en échappent peut-être encore aujourd'hui, mais qu'à cause de l'habitude personne ne voit plus. Madame Swann tenait beaucoup à ce thé. Elle croyait montrer de l'originalité et dégager du charme en disant à un homme « Vous me trouverez tous les jours un peu tard, venez prendre le thé. » De sorte qu'elle accompagnait d'un sourire fin et doux ces mots prononcés par elle avec un accent anglais momentané et desquels son interlocuteur prenait bonne note en saluant d'un air grave, comme s'ils avaient été quelque chose d'important et de singulier qui commanda la déférence et exigea de l'attention. Il y avait une autre raison que celle donnée plus haut, et pour laquelle les fleurs n'avaient pas qu'un caractère d'ornement dans le salon de Madame Swann, et cette raison-là ne tenait pas à l'époque, mais en partie à l'existence qu'avait menée jadis Odette. Une grande cocotte, comme elle avait été, vit beaucoup pour ses amants, c'est-à-dire chez elle, ce qui peut la conduire à vivre pour elle. Les choses que chez une honnête femme on voit et qui, certes, peuvent lui paraître, à elle aussi, avoir de l'importance, sont celles en tout cas qui, pour la cocotte, en ont le plus. Le point culminant de sa journée est celui non pas où elle s'habille pour le monde, mais où elle se déshabille pour un homme. Il lui faut être aussi élégante en robe de chambre, en chemise de nuit qu'en toilette de ville. D'autres femmes montrent leurs bijoux. Elle vit dans l'intimité de ses perles. Ce genre d'existence impose l'obligation et finit par donner le goût d'un luxe secret, c'est-à-dire bien près d'être désintéressé. Madame Swann l'étendait aux fleurs. Il y avait toujours près de son fauteuil une immense coupe de cristal remplie entièrement de violettes de Parme ou de marguerites effeuillées dans l'eau, et qui semblait témoigner aux yeux de l'arrivant de quelque occupation préférée et interrompue, comme eût été la tasse de thé que Madame Swann eût bu seule pour son plaisir. D'une occupation plus intime même et plus mystérieuse, si bien qu'on avait envie de s'excuser en voyant les fleurs étalées là, comme on l'eût fait de regarder le titre du volume encore ouvert qui eût révélé la lecture récente, donc peut-être la pensée actuelle d'Odette. Et plus que le livre, les fleurs vivaient. On était gêné, si on entrait faire une visite à Madame Swann, de s'apercevoir qu'elle n'était pas seule, ou si on rentrait avec elle, de ne pas trouver le salon vide, tant y tenait une place énigmatique et se rapportant à des heures de la vie de la maîtresse de maison qu'on ne connaissait pas, ces fleurs qui n'avaient pas été préparées pour les visiteurs d'Odette, mais comme oubliées là par elle, avaient eu et auraient encore avec elle des entretiens particuliers qu'on avait peur de déranger, et dont on essayait en vain de lire le secret, en fixant des yeux la couleur délavée, liquide, mauve et dissolue des violettes de Parme. Dès la fin d'octobre, Odette rentrait le plus régulièrement qu'elle pouvait pour le thé, qu'on appelait encore dans ce temps-là le 5 o'clock tea. Ayant entendu dire, et aimant à répéter, que si Madame Verdurin s'était fait un salon, c'était parce qu'on était toujours sûr de pouvoir la rencontrer chez elle à la même heure. Elle s'imaginait elle-même en avoir un du même genre, mais plus libre. « Senza rigore », aimait-elle à dire. Elle se voyait ainsi comme une espèce de l'espinasse, et croyait avoir fondé un salon rival en enlevant à la du défunt du petit groupe ses hommes les plus agréables, en particulier Swann qui l'avait suivi dans sa sécession et sa retraite, selon une version qu'on comprend qu'elle eût réussi à accréditer auprès de nouveaux venus, ignorant du passé, mais non auprès d'elle-même. Mais certains rôles favoris sont par nous joués tant de fois devant le monde et repassés en nous-mêmes que nous nous référons plus aisément à leur témoignage fictif qu'à celui d'une réalité presque complètement oubliée. Les jours où Madame Swann n'était pas sortie du tout, on la trouvait dans une robe de chambre de crêpe de Chine, blanche comme une première neige, parfois aussi dans un de ces longs tuyautages de mousseline de soie qui ne semble qu'une jonchée de pétales roses ou blancs et qu'on trouverait aujourd'hui peu approprié à l'hiver et bien à tort. Car ses étoffes légères et ses couleurs tendres donnaient à la femme, dans la grande chaleur des salons d'alors, fermés de portières, et desquels ce que les romanciers mondains de l'époque trouvaient à dire de plus élégant, c'est qu'ils étaient douillettement capitonnés, le même air frileux qu'aux roses qui pouvaient y rester à côté d'elle, malgré l'hiver, dans l'incarnat de leur nudité, comme au printemps. À cause de cet étouffement des sons par les tapis et de sa retraite dans des enfoncements, la maîtresse de la maison, n'étant pas avertie de votre entrée comme aujourd'hui, continuait à lire pendant que vous étiez déjà presque devant elle, ce qui ajoutait encore à cette impression de romanesque, à ce charme d'une sorte de secret surpris que nous retrouvons aujourd'hui dans le souvenir de ces robes déjà démodées alors, que Madame Swann était peut-être la seule à ne pas avoir encore abandonnées, et qui nous donne l'idée que la femme qui les portait devait être une héroïne de roman, parce que nous, pour la plupart, ne les avons guère vues que dans certains romans d'Henri Gréville. Odette avait maintenant dans son salon, au commencement de l'hiver, des chrysanthèmes énormes et d'une variété de couleurs comme Swann jadis n'eût pu en voir chez elle. Mon admiration pour eux, quand j'allais faire à Madame Swann une de ces tristes visites où, de par mon chagrin, je lui retrouvais toute sa mystérieuse poésie de mère de cette Gilberte à qui elle dirait le lendemain « Ton ami m'a fait une visite », venait sans doute de ce que, rose pâle comme la soie Louis XV de ses fauteuils, blanc de neige comme sa robe de chambre en crêpe de Chine, ou d'un rouge métallique comme son samovar, il superposait à celle du salon une décoration supplémentaire, d'un coloris aussi riche, aussi raffinée mais vivante et qui ne durerait que quelques jours. Mais j'étais touchée par ce que ces chrysanthèmes avaient moins d'éphémère que de relativement durable par rapport à ces tons, aussi roses ou aussi cuivrés, que le soleil couché exalte si somptueusement dans la brume des fins d'après-midi de novembre, et qu'après les avoir aperçus avant que j'entrasse chez Madame Swann, s'éteignant dans le ciel, je retrouvais prolongée, transposée dans la palette enflammée des fleurs. Comme des feux arrachés par un grand coloriste à l'instabilité de l'atmosphère et du soleil, afin qu'ils vinssent orner une demeure humaine. Ils m'invitaient, ces chrysanthèmes, et malgré toute ma tristesse, à goûter avidement pendant cette heure du thé les plaisirs si courts de novembre, dont ils faisaient flamboyer près de moi la splendeur intime et mystérieuse. Hélas, ce n'était pas dans les conversations que j'entendais que je pouvais l'atteindre. Elle lui ressemblait bien peu. Même avec Madame Cottard, et quoique l'heure fût avancée, Madame Swann se faisait caressante pour dire « Mais non, il n'est pas tard. Ne regardez pas la pendule, ce n'est pas l'heure. Elle ne va pas. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de si pressé à faire ?» Et elle offrait une tartelette de plus à la femme du professeur qui gardait son porte-carte à la main. « On ne peut pas s'en aller de cette maison, » disait Madame Bontemps à Madame Swann. Tandis que Madame Cottard, dans sa surprise d'entendre exprimer sa propre impression, s'écriait « C'est ce que je me dis toujours avec ma petite jugeote dans mon fort intérieur. » Approuvée par des messieurs du jockey qui s'étaient confondus en salut, et comme comblés par tant d'honneur, quand Madame Swann les avait présentés à cette petite bourgeoise peu aimable, qui restait devant les brillants amis d'Odette sur la réserve, sinon sur ce qu'elle appelait la défensive, car elle employait toujours un langage noble pour les choses les plus simples. « On ne le dirait pas, voilà 3 mercredis que vous me faites faux bon, » disait Madame Swann à Madame Cottard. « C'est vrai, Odette, il y a des siècles, des éternités que je ne vous ai vue. Vous voyez que je plaide coupable. Mais il faut vous dire, » ajoutait-elle d'un air pudibond et vague, car, quoique femme de médecin, elle n'aurait pas osé parler sans périphrase de rhumatisme ou de colique néphrétique, que j'ai eu bien des petites misères, chacun a les siennes. Et puis j'ai eu une crise dans ma domesticité mâle. Sans être plus qu'une autre très imbue de mon autorité, j'ai dû, pour faire un exemple, renvoyer mon Vatel, qui, je crois, cherchait d'ailleurs une place plus lucrative. Mais son départ a failli entraîner la démission de tout le ministère. Ma femme de chambre ne voulait pas rester non plus. Il y a eu des scènes homériques. Malgré tout, j'ai tenu ferme le gouvernail, et c'est une véritable leçon de choses qui n'aura pas été perdue pour moi. Je vous ennuie avec ces histoires de serviteurs, mais vous savez comme moi quel tracas c'est d'être obligé de procéder à des remaniements dans son personnel. Et nous ne verrons pas votre délicieuse fille ? Demandait-elle. Non, ma délicieuse fille dîne chez une amie, répondait Madame Swann, et elle ajoutait en se tournant vers moi, « Je crois qu'elle vous a écrit pour que vous veniez la voir demain. Et vos babies ? » demandait-elle à la femme du professeur. Je respirais largement. Ces mots de Madame Swann qui me prouvaient que je pourrais voir Gilberte quand je voudrais me faisaient justement le bien que j'étais venue chercher et qui me rendaient à cette époque-là les visites à Madame Swann si nécessaires. « Non, je lui écrirai un mot ce soir. » Du reste, Gilberte et moi, nous ne pouvons plus nous voir, ajoutai-je, ayant l'air d'attribuer notre séparation à une cause mystérieuse, ce qui me donnait encore une illusion d'amour, entretenue aussi par la manière tendre dont je parlais de Gilberte et dont elle parlait de moi. « Vous savez qu'elle vous aime infiniment, » me disait Madame Swann. « Vraiment, vous ne voulez pas demain ?» Tout d'un coup, une allégresse me soulevait, je venais de me dire « Mais après tout, pourquoi pas, puisque c'est sa mère elle-même qui me le propose. » Mais aussitôt, je retombais dans ma tristesse. Je craignais qu'en me voyant, Gilberte pensât que mon indifférence de ces derniers temps avait été simulée, et j'aimais mieux prolonger la séparation.